Le journal David Sanchez.
Bonsoir. Coup d'envoi de la vaccination à l'université de Neuchâtel. Des permanences sont organisées sur le campus pour permettre aux étudiants d'accéder au vaccin et donc au certificat Covid. 65 étudiants ont reçu une dose lors de cette première opération. Le monde économique redoute une nouvelle crise planétaire. Le géant chinois de l'immobilier Evergrande est endetté à hauteur de 280 milliards de francs. Une faillite pourrait avoir des répercussions, même jusque dans l'arc jurassien. Neuchâtel Xamax attend Stade Lausanne-Ouchy ce soir à la Maladière en Challenge League de football. L'occasion peut-être pour Yanis Layuel d'inscrire contre son ancienne équipe son premier but avec les Rouges et Noirs. Il y aura peu de nuages dans notre ciel ce soir. La nuit s'annonce fraîche et étoilée. L'université de Neuchâtel déploie son dispositif de vaccination. Depuis la rentrée hier, le certificat Covid est nécessaire pour assister aux cours en présentiel. Une offre de vaccination est donc organisée par l'institution Nomade directement sur le campus. La première permanence a eu lieu aujourd'hui entre midi et 15h dans le bâtiment d'Unimail. 65 des 100 doses disponibles ont été administrées. Audrey Mandy était sur place.
Des dizaines d'étudiants font patiemment la queue au cœur de la faculté des sciences. Pour bénéficier de la vaccination réservée à la communauté universitaire, pas besoin de prendre rendez-vous. Il suffit de se présenter avec une carte de l'université. Les candidats à la vaccination attendent dans une bibliothèque aménagée pour l'occasion avant d'être guidés dans une petite salle adjacente pour la piqûre.
Quel bras, monsieur, pour le vaccin ?
Droite, s'il vous plaît.
Vous attendez bien ? Je pique. Et voilà.
Magnifique, merci beaucoup.
Voilà, monsieur, il faudra attendre 15 minutes en salle de surveillance et ça, c'est votre attestation. Donc, c'est bien une dose sur un. Et
ouais, QR parfait.
Je vous souhaite une bonne journée.
Merci beaucoup, pareillement.
Merci, au revoir.
Je m'appelle Alexandre et j'étudie l'histoire et la sociologie à l'université.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi de venir vous faire vacciner ici à l'université de Neuchâtel ?
Parce que j'ai vu passer l'annonce sur une télé de l'Uni ce matin, je me suis dit que c'était l'occasion.
Donc c'est de l'opportunisme en fait ?
Ouais, exactement, ça fait gagner du temps, pas besoin de prendre un rendez-vous dans un centre officiel.
Vous n'êtes pas fait vacciner avant aujourd'hui, c'est parce que c'est quelque chose qui vous séduisait pas plus que ça ?
Parce que je voulais me vacciner en mai, puis j'ai attrapé le Covid au moment où j'allais m'inscrire. Alors j'attends.
De nombreux étudiants, en revanche, sont plus réticents. Plusieurs d'entre eux se sont sentis forcés la main par l'extension du certificat Covid, à l'image d'Anaïs, étudiante en droit à l'université de Neuchâtel.
En fait, avec ces décisions, comme quoi les unis doivent, les personnes allant à l'université doivent aussi avoir le vaccin, le pass sanitaire, c'est comme avoir un peu le couteau sous la gorge. Et donc le choix, il est présent, mais c'est un choix indirect et un peu implicite, c'est pas vraiment un choix. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me faire vacciner. Et puis, j'ai pas non plus voulu attendre me faire vacciner dans ma ville parce qu'il y a une longue file d'attente. Je pourrais que me faire vacciner vers le 20 octobre. Et durant tout ce temps, qu'est-ce que je fais ? Je devrais suivre les cours à distance et ça, j'ai pas envie.
L'opération de vaccination se poursuit sur le campus. D'autres sessions seront organisées le 28 septembre dans le bâtiment principal à l'avenue du 1er mars et le 5 octobre en faculté des lettres et sciences humaines. Les équipes mobiles de Nomade reviendront ensuite à l'université de Neuchâtel pour la deuxième dose fin octobre, début novembre.
Et le médecin cantonal neuchâtelois Claude-François Robert organise une séance de questions-réponses sur la vaccination pour la communauté universitaire. Ce sera le 28 septembre dans le bâtiment de la faculté de droit. Les vendanges prennent un peu de retard. L'année passée, à cette période, elles étaient déjà bien lancées. Mais cette année, la récolte n'est pas encore là. On fait le point avec Léo Michou sur une situation qui n'est pas finalement si étonnante que ça.
Retour à une forme de normalité en 2021, au prix du travail acharné des vignerons. Les vendanges débutent lors de la première semaine d'octobre, c'est plutôt tardif par rapport aux deux années précédentes, très ensoleillées. Mais cela reste très proche de la moyenne sur les 10 ou les 20 dernières années. L'occasion pour les professionnels de la branche viticole de faire le point sur la saison écoulée et sur le vin à venir. Ce qui est sûr, c'est que les intenses précipitations du début de l'été ont joué le rôle principal. Le froid, la pluie et même la grêle ont favorisé le développement du mildiou. Le retour en force de ce champignon a fait des ravages. La station viticole d'Auvergne estime que 25% de la production normale de raisins est à jeter à la poubelle à cause de cet habitué des vignes neuchâteloises. Avec ce temps, la charge de travail des vignerons a explosé. Ils se sont montrés réactifs, profitant des rares moments de soleil pour protéger leur culture. Mais à force de sortir les machines le matin, le soir ou encore le week-end, les nuisances sonores ont mis le bon voisinage à rude épreuve. Des vignerons auraient reçu des critiques de la part des riverains. Quoi qu'il en soit, malgré le défaut de quantité, la qualité et le sentiment du travail accompli semblent bien être au rendez-vous.
Un dossier à retrouver sur rtn.ch. D'ici au début des vendanges, les vignerons espèrent que le soleil restera de la partie. Il s'agit d'éviter que les insectes ne se ruent trop vite sur les raisins. Rappelez l'importance de la coopération au développement. C'est la raison d'être de la nouvelle campagne de Latitude 21. La Fédération neuchâteloise des associations actives dans des actions de développement fait le pari de l'humour pour sensibiliser la population à ce sujet sérieux et réclamer du soutien. Des vidéos au ton ludique sont chargées d'évoquer les objectifs de développement durable des Nations Unies. Des séquences visibles dès aujourd'hui dans une installation au Jardin Anglais à Neuchâtel. Morgan Leschaud est le secrétaire général adjoint de Latitude 21. Il nous explique le message que cette campagne cherche à délivrer.
Les objectifs de développement durable, ce sont des objectifs qui ont été définis par l'ONU et qui visent à avoir un peu un objectif à moyen terme pour avancer dans le développement durable de la planète de manière générale. Un des objectifs principaux, c'est d'avoir un langage commun et donc de savoir de quoi on parle entre pays, entre continents et puis entre différents milieux aussi. Que l'on soit une entreprise, une organisation, un État, une commune ou bien un individu, ça va du petit geste quotidien à la manière dont on mange, comment on va voter, comment... Voilà, ça a vraiment un impact sur, de manière générale sur notre mode de vie et ça concerne tout le monde.
Davantage d'informations au sujet de cette campagne sur rtn.ch. L'installation au Jardin Anglais est en place jusqu'au 8 octobre. Elle sera ensuite appelée à se déplacer dans le canton de Neuchâtel. L'allaitement, cela semble naturel, mais ce n'est pas toujours évident. Depuis juillet 2020, l'hôpital du Jura Bernois à Saint-Imy a créé un poste à 100% entièrement dédié à l'accompagnement à l'allaitement. Les deux infirmières qui occupent cette fonction ont notamment mis en place un protocole pour les mamans qui accouchent par césarienne. Il a été présenté ce matin à l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Sandrine Leuenberger est l'une des deux consultantes en lactation.
Comme on est en fait en plus dans le service, on est hors effectif, on a le temps de descendre avec ses mamans lorsqu'une césarienne est programmée. On fait la prise de naissance du bébé et on présente ce bébé à sa maman directement en salle d'opération où on le met en peau à peau. Et comme on n'est pas attendu dans le service, on a le temps de rester avec et de démarrer l'allaitement en salle de réveil et de rester auprès de ses mamans, en tout cas 2 heures de temps.
Parce qu'avant, le bébé partait avec son papa.
C'est ça. Le bébé, directement après la césarienne, on le présentait juste à la maman et ensuite il remontait dans le service pour faire du pot à pot avec son papa.
Pourquoi c'est important que ce bébé soit en contact tout de suite, enfin le plus vite possible avec sa maman plutôt qu'avec son papa?
Déjà pour des raisons d'attachement maternel, hein, d'être loin de son bébé 2 heures de temps. C'est vrai que c'est un déchirement pour une maman. Le bébé aussi, durant ses 2 premières heures après la naissance, il est rempli d'adrénaline, donc très réveillé pendant ses 2 premières heures. Et ça va lui permettre aussi de débuter un allaitement assez tôt. On aimerait que l'allaitement démarre dans la première heure après la naissance. Et ça permet aussi de mettre en place un allaitement adéquat.
Des propos recueillis par Claire Viget. L'accompagnement des mamans dans leur projet d'allaitement s'adresse également aux femmes qui accouchent par voie basse. En 2020, la maternité a enregistré 395 naissances. Les consultantes en lactation estiment que 90% des mamans ont choisi d'allaiter leur bébé. Il est urgent d'améliorer l'accès à la formation des jeunes migrants. L'ONG Solidarité sans frontières, le syndicat SSP et l'Union des étudiants de Suisse ont déposé ce mercredi au Parlement fédéral une pétition munie de près de 20 000 signatures. Elle demande que soit garanti le droit à l'éducation pour tout le monde, quel que soit le statut. Pourquoi s'adresser à la Confédération alors que la formation est du ressort des cantons ? La réponse de Sophie Guignard, co-directrice de la campagne intitulée « Éducation pour toutes et tous, maintenant ».
Parce que très souvent, dans le domaine de l'asile et du droit des étrangers et des étrangères, on voit que le canton renvoie très souvent la balle au niveau fédéral et l'inverse aussi. Et en fait, on voit que s'il y avait une impulsion plus grande de la part de la Confédération, un signal clair que l'éducation est quelque chose de très important et que ça doit être favorisé, on voit que dans les cantons, ça se débloquerait plus vite. Et par rapport au permis de séjour, les jeunes qui ont un permis F ont beaucoup plus de difficultés à se former. Un permis F exige que vous restiez dans votre canton d'attribution. Et j'ai rencontré des jeunes qui m'ont dit « Mais moi, j'avais trouvé un super apprentissage dans le canton voisin, mais à cause de mon permis, j'ai dû renoncer à cette place. » Et du coup, on voit beaucoup de jeunes qui finalement se retrouvent à faire une formation qui n'est pas leur choix premier. On voit que du coup, ils ont moins de chances que les personnes qui ont un permis de séjour plus stable ou qui sont suisses.
Des propos recueillis par Serge Jubin. La demande en semi-conducteurs ne faiblit pas. Le fabricant EM Microélectronique, filiale du groupe Swatch basé à Marin, le constate. La hausse de la demande est de plus de 50% au premier semestre et le carnet de commandes pour 2022 excède déjà ses capacités, explique le fabricant dans l'AGFI du jour. Pour faire face à cette demande et augmenter la production, le groupe Swatch a investi 30 millions de francs dans sa filiale neuchâteloise. Le naufrage d'Evergrande inquiète le monde économique. Le géant chinois de l'immobilier qui accuse 280 milliards de francs de dettes est au bord de la faillite, une situation qui rappelle la crise de 2008. Dernièrement, l'entreprise a été sommée par l'État chinois de montrer des garanties alors que plusieurs dettes doivent être remboursées fin 2021. En cas de non-paiement, le groupe sera déclaré en faillite. Cette situation a fait plonger les marchés boursiers dès la fin de la semaine passée et provoque des grandes craintes au niveau économique. Plus près de chez nous, une faillite d'Evergrande pourrait aussi avoir un impact. Jean-Paul Jekelmann, directeur développement immobilier à la Banque Bonhôte.
Alors on peut considérer que l'effet principal serait sur les entreprises qui effectivement ont des marchés relativement importants en Chine, car en cas de faillite d'Evergrande, on aura peut-être un ralentissement de l'économie chinoise. Et à ce moment-là, l'industrie horlogère, par exemple, qui compte beaucoup sur la croissance chinoise, pourrait être indiscutablement touchée, car qui dit baisse de la croissance économique dit aussi baisse de la demande dans les produits, et notamment les produits de luxe.
Beaucoup de monde, en fait, pense à la crise des subprimes en 2008, avec un crash qui avait touché la planète. Si Evergrande venait à faire faillite, est-ce que ça peut avoir les mêmes répercussions?
Alors, les mêmes répercussions, certainement pas, parce que la faillite de Lehman Brothers en 2008 est arrivée de manière très surprenante, inattendue, alors qu'aujourd'hui, tout le monde peut aussi commencer à se préparer à une éventuelle faillite de Evergrande. C'est ce que tout le monde fait depuis deux semaines, trois semaines. Et donc, on peut aussi se dire que si jamais ça arrivait, l'impact serait beaucoup moins important parce que les gens se sont préparés, les investisseurs se sont préparés, les banques se sont préparées à une telle éventualité.
Jean-Paul Jekelmann répondait à Yann Esler. Ce matin, Evergrande a annoncé le paiement d'intérêts sur une infime partie de sa dette, soit 33 millions de francs, selon une information de Bloomberg.
Il est 18h13.
Sport. L'élimination en Coupe de Suisse à peine digérée, Neuchâtel-Xamax se focalise dès ce soir uniquement sur le championnat. Le club rouge et noir attend Stade Lausanne-Ouchy sur le coup de 20h30 au Stade de la Maladière. Au classement, l'équipe d'Andrea Binotto peut repasser en tête. Elle occupe en effet le deuxième rang avec un point de retard sur Winterthur, mais aussi un match en moins. Stade Lausanne-Ouchy n'est pas loin, les Vaudois n'ont que trois longueurs de retard sur les Xamaxiens. Trois éléments du club stadiste ont rejoint Xamax à l'intersaison, Dylan Tavares, Karim Gazzetta ainsi que Yanis Layuel. Cet attaquant de 26 ans n'a pas encore trouvé le chemin des filets avec les rouges et noirs. Il ne cache pas sa frustration, mais il reste persuadé qu'il va progresser sous les couleurs de son nouveau club. Yanis Layuel.
Neuchâtel, historiquement, c'est beaucoup plus connu que Stade Lausanne-Ouchy. Et je pense que c'est un plus gros club, juste au niveau du stade et des infrastructures et du nom aussi. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Neuchâtel Xamax par rapport au Stade Lausanne-Ouchy. Tout le monde nous attend ici, il y a beaucoup de public, donc voilà.
Yanis, est-ce que la concurrence n'est pas plus vive que du côté de Stade Lausanne, surtout cette saison?
Il y a de la concurrence un peu partout, mais l'année dernière, il y avait beaucoup de concurrence, cette année aussi, voilà. C'est une concurrence saine, et puis voilà, il faut donner le meilleur pour jouer.
Néanmoins, ça veut dire qu'on a peut-être un tout petit peu plus de pression?
Non, pas forcément. Beaucoup de plaisir, surtout devant le public. Ça fait vraiment plaisir de jouer devant autant de monde, et on donne le maximum.
Ça, c'est peut-être la grosse différence avec Stade Lausanne-Ouchy, justement, qui plus est la saison dernière. Pas de public nulle part, mais là, il y en a ici.
Clairement, non, franchement, c'est la première fois que je connais ça. Autant de public à chaque match qui te soutiennent, qui crient. Donc voilà, ouais, ça fait vraiment plaisir. Ouais.
Ça peut booster par moment?
Bien sûr. Bah, franchement, depuis qu'on est là, depuis qu'on joue ici en championnat, ils nous ont boosté à chaque fois. Et on peut dire que c'est vraiment le 12e homme.
Pas encore but de marquer. Frustration pour l'avant-centre?
Ouais, frustration, ça, c'est logique. Mais voilà, le plus important, c'est l'équipe. Et j'espère qu'on va gagner les matchs. Peu importe si je marque ou c'est un autre.
Des propos recueillis par Marcel Neunschwander. Pour la partie de ce soir, Andrea Binotto est a priori toujours privé de ses deux latéraux gauches, blessés, Dylan Tavares et Mathieu Gonsalves, au même titre qu'Alexandre Pache. Max Veloso devrait en revanche faire son retour. Neuchâtel-Xamax, Stade Lausanne-Ouchy, un match à suivre en direct sur RTN ce soir en intégralité dès 20h15. Et on termine avec un tour de Romandie au féminin. L'Union cycliste internationale a annoncé aujourd'hui que le calendrier du World Tour féminin comprendra une nouvelle épreuve à l'automne 2022. Il s'agira effectivement d'un tour de Romandie féminin calqué sur le principe de la course masculine. Il s'étalera sur 3 jours et réunira environ 100 coureuses.